Ce matin, je vous donnais le cadre général de la conversion, à savoir que dans le fond, nous n'avons pas envie de nous convertir, parce qu'on a peur que le Seigneur nous en demande trop, on a peur qu'il se gourre, nous savons tellement bien ce qui nous convient. Comme disait André Frossard, Dieu est Dieu, nom de Dieu. Hein, c'est pas... Donc il sait tout. Et un autre obstacle, c'est cette idée, je suis incapable de progrès. Ce qui est très vrai. Même des saints l'ont dit, à la fin de leur existence, je m'avoue incapable de progrès. Mais le progrès qui est fait, c'est Dieu en nous. Donc la seule chose dans le fond qu'il nous demande pour nous convertir, c'est de nous livrer à lui, pour qu'il puisse accomplir en nous. Je vous citais ce matin la parole, on a des marottes, celle-là me plaît beaucoup, demandant à l'Esprit Saint, qu'il se fasse en mon âme comme une incarnation du Verbe, que je lui sois une humanité de surcroît, dans laquelle il puisse prolonger tout son mystère. L'Église, c'est le corps du Christ. C'est pas le nôtre. C'est le corps du Christ. Donc, il faut se livrer au Christ. Et la conversion consiste à se livrer à lui, et non pas à faire quelque chose, parce qu'on ne sait pas quoi faire, on est toujours dans l'imperfection, et c'est quasiment un échec garanti. Donc, je vous disais l'importance de notre vie de relation à Dieu. Notre vie de relation à Dieu ou de nos relations à une quelconque personne, c'est ce qui permet d'entretenir l'amitié, c'est ce qui permet de rentrer, quand on se développe la confiance, dans les secrets de notre cœur. Vous voyez, c'est ce que disait Yahvé dans l'Ancien Testament au prophète Osée, « Je t'amènerai au désert, donc dans un lieu où tu es seul avec moi, et je parlerai à ton cœur. » Et pouvant parler au cœur, à ce moment-là, nous comprenons mieux ce qu'il nous demande. Et ce qu'il nous demande, dans l'ensemble, c'est toujours ultra simple. Et il nous dit, rappelez-vous des paroles de Jean-Paul II, « N'ayez pas peur », des paroles qui sont des paroles du Christ, « N'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde », nous dit Jésus, Jean 16, 33. Donc dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 16e, verset 33. « N'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde. » Or, le monde nous apparaît souvent ultra-puissant et ayant gagné sur toute la ligne. Donc, c'est essentiellement, si vous voulez, la confiance en Jésus. Et cette confiance en Jésus fait que c'est cela, la prière. Souvent, nous réduisons aussi, vous voyez, parce qu'on aime bien tenir les choses. On réduit la prière à des formules à dire, à des choses répétitives. Bon, le Seigneur est bon, il va passer par tout ce que nous faisons. De toute façon, ça sera toujours maladroit. Mais ce qu'il veut, lui, comme quand on est amoureux de quelqu'un, on veut communiquer avec cette personne. On veut pouvoir communiquer avec elle. Et dans le fond, par l'obstacle que nous lui faisons avec nos prétextes à la noix, nous lui interdisons de communiquer avec nous. Il communique avec nous, donc, sans bruit de mots, mais par des infléchissements, on pourrait dire, progressivement de notre cœur. Alors on en était arrivé par là, donc j'ai repris, et je voudrais voir maintenant ce Dieu qui attend à la porte de notre cœur. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, Jean 15, 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Donc ce n'est pas nous qui choisissons le Christ, c'est lui qui nous choisit. Mais bien évidemment, si on garde la porte fermée, cette porte du cœur, il ne peut pas, il est dans l'incapacité d'agir dans la profondeur de notre cœur. Et nous en sommes les victimes parce que jamais nous ne rencontrons le Christ, ou par oui dire, ou par des trucs cérébraux, dans des conférences, etc. Mais il faut que nous connaissions d'expérience. Vous voyez, souvent aussi, je vous ai cité la parole du Cantique des Cantiques, mais où est passé celui que mon cœur aime? Il faut l'avoir rencontré pour s'apercevoir qu'il a foutu le camp. Si on ne l'a jamais rencontré, on s'aperçoit, on ne sait pas faire la différence entre le fait qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là. Tout reste dans le Cantique des Cantiques, l'amoureuse, quand il frappe à la porte, elle dit « Oh, mais je suis déjà couché, je me suis déjà lavé, j'ai fait ma toilette. » Puis après, elle s'aperçoit de l'erreur. « Oh, l'erreur !» Mais c'était trop tard, il était parti. Voilà, je me tiens à la porte et je frappe. Il frappe sans arrêt à la porte de notre cœur. C'est-à-dire que si nous sommes des êtres vivant uniquement dans l'extériorité, dans les interférences du monde, jamais, si nous ne nous accordons pas un temps pour être seuls avec lui, nous ne pouvons faire cette rencontre des profondeurs qui, en définitive, est quelque chose de bouleversant. Donc il se tient à la porte et souvent dans la discrétion. Et vous avez certainement remarqué dans votre existence que les fois où il est passé, c'est parce que vous aviez fait l'effort d'ouvrir la porte, c'est-à-dire de sortir, en l'exprimant d'une autre façon, de sortir de vous-même. On fait un effort, quel qu'il soit, pour être d'église, pour être à lui, et c'est à ce moment-là qu'il surgit. Bon, il y a d'autres fois où il peut surgir d'un seul coup et frapper vraiment très fort. Si vous pensez à la conversion de saint Paul, il allait pour persécuter les chrétiens à Damas, et puis voilà que le Seigneur lui apparaît. Il apparaît et se manifeste par la lui. Donc, ce cas de conversion est rare, mais pas si rare que ça à l'heure actuelle. En tant que prêtre, nous rencontrons des gens maintenant qui sortent de milieux totalement athées et chez qui le Christ a frappé à la porte. Et ils en ressortent, bouleversés, quoi. Mais je vous dis, des milieux athées, ils n'ont jamais entendu parler de Dieu, rien. Et puis tout d'un coup, pour une circonstance ou une autre, ça surgit dans leur existence. Alors, donc il peut y avoir ces cas, c'est quand il y aurait, la situation est difficile. À l'heure actuelle, la situation chrétienne est difficile. Donc il peut, et nous chrétiens, il faut faire très attention à ces gens-là, parce qu'ils vont surgir, et c'est une parenthèse que j'ouvre, ils vont surgir de milieux inattendus, arrivant avec leur bagage, leur culture, qui est souvent très différente de la nôtre. Il faut savoir les accueillir et puis petit à petit les amener vers le Christ. Et là aussi j'ai fait des expériences douloureuses de voir qu'il y avait des communautés chrétiennes qui n'accueillaient pas. On leur offre des gens, on dit « voilà, je viens rencontrer telle personne, je suis à 600 km, occupez-vous, quoi, ils demandent le baptême ». On ne s'en occupe pas. Donc soyez attentifs à ça. Alors, mais généralement, pour nous, dans notre vie chrétienne, il se manifeste si nous nous tenons à la porte du cœur. Je vous le dis, en l'exprimant d'une autre façon, ce sont des métaphores, si nous sortons, on pourrait dire, de ce quotidien, peut-être chrétiennement, qui nous paraît confortable, mais qui pour finir est totalement vide de la présence du Christ. Dans le fond, on est chrétien sans le Christ, sans en faire l'expérience, sans vivre en communion avec lui. C'est extérieur à nous. Alors ça se réduit à assister à la messe, avoir des obligations, quelques obligations morales, mais il n'y a jamais ce choc. C'est un choc, la rencontre avec le Christ. Et donc vous ne pouvez faire cette rencontre avec le Christ que si vous sortez de ces douces certitudes et de cette douce médiocrité qui, pour finir, n'apporte pas grand-chose et sinon rien. Je vous dis, à terme, nous en sommes les victimes. Ce qui est très dangereux pour nous et qui nous interdit de faire cette rencontre, et vous l'avez compris, si on fait la rencontre, c'est tellement fascinant que, voilà, la conversion s'amorce, on se retourne toujours vers la chose ou l'être le plus attirant. Que ce soit un paysage, que ce soit une personne. Eh bien, si on fait véritablement la rencontre du Christ, si nous ouvrons la porte de notre cœur, si nous ne nous fermons pas, à ce moment-là, ben, il y a une autre personne qui surgit dans notre vie, lui, Jésus, et à ce moment-là, on se met à le suivre. Et ce n'est qu'un début, parce qu'il va demander toujours plus. Alors, vous voyez, là, il y a quelque chose qui joue. Je voudrais vous faire toucher ce qu'est le mensonge. Parce que, quand nous pensons à mensonge, on dit à quelqu'un, je suis allé à droite alors qu'on est allé à gauche. C'est pas moi qui ai mangé la part de gâteau qui est restée. Voilà, nous nous limitons à des choses souvent très bassement matérielles. Alors que là, si le Christ frappe à notre porte, s'il nous appelle, nous arrivons à nous auto-justifier en disant, comme je vous l'ai évoqué ce matin, le fait, oh ben c'est trop fort pour moi, c'est... je ne suis pas fait pour ça, jamais je n'y arriverai, je n'ai rien entendu. Et ça, ce sont des mensonges terribles. Hein, ce n'est pas comme la part de gâteau. Ce sont des mensonges terribles qui nous empêchent vraiment d'avancer et d'être dans la profondeur de notre être au Christ. Ne le rencontrant pas, nous sommes incapables à ce moment-là de le porter aux autres. On ne peut porter que ce que l'on a. Si on n'a pas, on ne peut pas porter. Donc, cette écoute intérieure de ce que le Christ nous demande, cette écoute intérieure, où parfois il vient uniquement pour nous dire, comme il est amoureux aussi, qu'il nous aime, et nous avons souvent besoin de cet amour pour nous consoler à travers les âpretés de la vie, et bien, voilà, ça nous permet de nous convertir. Et on pourrait dire, là, c'est une parole, je n'ai pas pris le temps de rechercher la référence, un ancien, je pense que c'est Macaire le Grand, un des tout premiers moines, qui disait « L'auto-justification est à l'inverse de la conversion, elle conduit vers une dégradation spirituelle de plus en plus grave. » J'avais dû vous le citer aussi d'autres années. Vous avez un jeune, il reçoit la vocation. Mais seulement, ben voilà, il a entamé des études sympathiques, il a trouvé une jeune fille qui lui plaît beaucoup. Ben, il dira non. Et il dira qu'il n'a rien reçu, etc., etc. Puis on le voit bien après dans la vie, on suit des personnes qui sont toujours mal dans leur peau. Toujours mal dans leur peau parce que il aurait été proposé quelque chose qui allait vers la plénitude de leur existence. Ils n'ont pas accepté de renoncer à quelque chose qui leur paraissait préférable à l'époque, ou même en étant conscient que c'était mieux avec le Christ, mais dans le fond, n'ayant pas eu l'humilité aussi de dire, ben voilà, Seigneur, j'ai pas la force, hein, elle est vraiment trop attirante. Et ça conduit à des situations bancales, des gens qui... Mais grosso modo, qui vont être chiants toute leur vie. Ils ne sont jamais bien où ils sont. Voilà, donc nous pouvons nous mentir à nous-mêmes et des mensonges, donc vous l'avez compris, qui nous empêchent de nous convertir véritablement. Ce sont des mensonges aux conséquences redoutables, vous l'avez saisi. Même plus que de dire que c'est pas moi qui ai mangé la dernière part de tarte
à la poire. Il en reste d'ailleurs.
C'est la poire à l'allemand, non?
Bon.
Dans le fond, l'auto-justification nous conduit à une autodestruction de la vie spirituelle. Et nos calculs égoïstes nous conduisent, vous dites, dans un premier temps, on peut jouir de ce que nous avons, on peut s'enfermer sur ces calculs égoïstes, mais pour finir, cela va détruire notre être profond et détruire l'épanouissement de notre être. Si nous n'accueillons pas l'Esprit de Dieu, c'est que dans le fond, nous nous préférons à Dieu. Et vous voyez, bon, il peut y avoir... nous sommes tous des êtres égocentrés. Hein. Ça, c'est des conséquences du péché originel. L'homme n'ayant plus la vie en plénitude, sans Dieu, il est toujours en train de se protéger pour essayer de la conserver. Et... cette situation égotique, pour finir, on se protège, mais comme nous n'avons pas la vie en vous, non, nous, ni la vie biologique, ni encore moins la vie spirituelle, si on ne l'accueille pas, ben, voilà, nous nous replions, nous nous refermons sur nous-mêmes, et on vit de façon de plus en plus étroite, étriquée, et malheureuse.
Alors, il faut nous donner les clés.
Hein? Alors, la clé, vous l'avez déjà, je vous l'ai donnée, mais je vais y revenir. Hein, puisque nous sommes égocentrés, ben, il faut sortir de nous-mêmes. Voilà. Alors, sortir de nous-mêmes, une parole d'un saint, je suis sorti sans être vu, de moi-même, ma demeure étant en repos. Voilà, sortir, c'est-à-dire, là, puisqu'on était dans l'exemple de la porte, je frappe à la porte. Ben, ne pas se retirer dans l'arrière-boutique de notre égoïsme, mais aller vers la porte et lui ouvrir la porte du cœur. Et à ce moment-là, c'est lui qui commence à agir en nous. Si nous disons oui, c'est pas nous qui nous transformons. Hein. Vous voyez, on l'a vu, on est incapable de progrès. Mais c'est lui qui, si nous disons oui, petit à petit, va commencer à nous changer. Et cette transformation, c'est véritablement une métamorphose, va durer... toute une vie. Rappelez-vous de ce que je vous disais ce matin à propos de la Vierge Marie, même en étant sans péché et en étant l'Immaculée Conception, regarde ton Père et moi combien nous avons souffert. Et donc la sortie de nous-mêmes, par rapport à notre ego, pour aller vers cette porte et lui ouvrir la porte du cœur, est toujours quelque chose de douloureux. La vie spirituelle et la conversion sont douloureuses parce que c'est une sortie de notre moi, et souvent nous sommes placés dans la vie dans des situations qui nous font sortir de nous-mêmes. On est acculé à sortir de nous-mêmes. Pensez tout simplement à un enfant qui est en bas âge, qui est au pieu et qui crie la nuit. C'est la maman qui se lève, hein. Papa. Mais voilà, on préférait rester au pieu, hein, mais ça nous fait sortir de notre bien-être pour aller vers la nécessité de l'enfant. Et donc, dans toute notre vie, ça sera ça, nous sommes placés dans des circonstances existentielles qui nous font sans cesse sortir de nos limites. Et si nous pouvons toujours les refuser, mais si nous acceptons, évidemment, ça sera douloureux dans un premier temps. Mais par la suite, nous en serons les bénéficiaires. Et nous avons tous cet exemple, puisque nous l'avons tous vécu sans exception. Il n'y a pas beaucoup de gamins qui aiment aller à l'école, en dehors des récréations. Bon, il y a quelques gamins surdoués qui prennent leurs pieds, parce que il y a aussi une part énorme d'égocentrisme, je suis meilleur que les autres. Mais dans l'ensemble, on s'aperçoit que la souffrance que nous avons eue d'apprentissage à l'école, par laquelle tous nous sommes passés, dans le fond, maintenant, on est bien content de savoir lire, de savoir écrire. Tout apprentissage porte en lui une part de souffrance. Et donc, la conversion, se retourner vers lui et accepter ce qu'il nous dit, n'ira pas sans souffrance. Ça me fait penser à une histoire des premiers moines. C'est l'histoire Jean le Petit, il s'appelait, parce qu'il était nain, et qui était toujours très drôle, et qui a plein d'histoires comme ça. Il y a un jeune moine qui vient voir un ancien, il lui dit « Ça va, je me trouve tranquille et sans combat. » Ben lui, grosso modo, si tu es tranquille et sans combat, c'est que tu restes enfermé dans ton ego. Donc tu risques pas de rencontrer le Christ. Alors il dit, prie et le combat te reviendra. Donc la souffrance te reviendra, mais en même temps que la souffrance, tu vas rencontrer ben, quelque chose qui est de l'autre monde déjà, la joie des enfants de Dieu. Ce qui fait que la conversion en nous va se marquer par une joie, mais une joie qui est toujours liée et dépendante aussi d'une certaine souffrance. Et cette souffrance est la certification qu'il se passe quelque chose. S'il ne se passait rien, il n'y aurait pas de souffrance. Je parle des souffrances de l'âme. Nous percevons bien en nous, par exemple, au niveau de la conversion, comme dit saint Paul, les gémissements de l'esprit. L'esprit en nous nous fait percevoir que nous ne sommes pas dans ce que nous devrions faire. Nous, on essaye justement de s'auto-justifier dans certains comportements. Et l'esprit nous fait percevoir que non, c'est pas ça. Alors, vous dites toujours pareil, on a notre liberté, on peut se bloquer, ou on peut dire oui. Et si on dit oui, vraisemblablement, les opérations de retournement et de changement de notre âme profond ne se font pas sans anesthésie, se font plutôt sans anesthésie. Et donc, généralement, nous souffrons au cours de ce renversement, que nous n'opérons pas seuls, vous l'avez saisi, on n'est pas capable, mais avec le Seigneur. Et le Seigneur permet que nous rencontrions ces souffrances, on pourrait dire, de dilatation de notre âme, de notre façon d'aimer, de se donner. Donc cela me fait penser aussi à la parole célèbre dans l'évangile de saint Jean. Le Père et moi, Jean 14, 23, le Père et moi nous viendrons chez lui et nous y ferons notre demeure. Donc cela peut bien se relier à la métaphore de la porte. Il vient chez nous, il frappe à la porte et si nous disons oui, eh bien, notre demeure la plus intime de notre cœur, eh bien, est occupée par la présence de Dieu. Et je vous citais ce matin Galates 2:20, aussi une parole célébrissime. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Parce que, voilà, et non pas à l'extérieur, en moi. Parce que j'ai ouvert la porte de mon cœur et que ce cœur a été métamorphosé. D'abord, oui, c'est aussi, vous rappelez l'évangile de saint Jean, le chapitre numéro 3, Nicodème qui vient de nuit voir Jésus, hein, parce qu'il a peur des pharisiens, mais quand même il est intrigué, il perçoit bien qu'il y a la vérité en Jésus. Et Jésus lui dit, il te faut renaître d'en haut. Et renaître d'en haut, hein, ce n'est pas, lui il le prend de façon littérale, je suis vieux, je ne vais pas quand même rentrer dans le ventre de ma mère, qui certainement est morte déjà depuis longtemps, mais ça signifie profondément qu'il faut qu'il y ait une renaissance de notre façon de voir, de notre façon d'aimer, de notre façon d'être en relation à Dieu, et c'est ça ce qui est la conversion et qui est un avant-goût véritablement de ce que nous vivrons dans l'éternité. Donc vous voyez que tout cela est simple. Dieu ne va jamais demander des trucs compliqués. C'est nous qui sommes compliqués. Il demande uniquement que nous nous ouvrions à sa présence et à ce qu'il veut réaliser en nous. Et à toute seconde, nous pouvons nous bloquer et justifier notre comportement. Nous souvenons de la citation à l'instant. L'auto-justification est à l'inverse de la conversion. Et vous voyez où se situe, où peut se situer le mensonge dans notre existence. Alors évidemment, il ne peut pas tout nous demander d'entrer. Hein. Si nous prenons par exemple la première aux Corinthiens 3:2, Paul est bien obligé de constater... Hein, c'est du lait que je vous ai donné à boire, non une nourriture solide, vous ne pouviez encore la supporter. Donc il y a aussi une pédagogie de Dieu, il nous prend où nous en sommes, mais il faudrait dire que si on lui donne comme ça, la fois d'après, il va venir et il dit, ben voilà, j'en prends comme ça, et on devient comme la Vénus de Milo, quoi. On en perd tous les bras. Quant à ces souffrances de conversion, de purification, on peut les appeler comme on veut, hein, vous comprenez que ça c'est un test. Quand quelqu'un vient vous voir, je vous citais l'exemple de Jean le Petit, je me vois tranquille et sans combat. Quand quelqu'un vient et qu'on accompagne quelqu'un spirituellement et qu'il n'y a pas de combat, c'est... ça m'inquiète un peu. Quoi. Ça se voit, c'est... Vous voyez, la personne continue, ça la caresse dans le sens du poil. Moi, je me souviens d'une personne qui vient me voir, elle dit « Ah, mais oui, j'aime tellement le Christ, je veux être au Christ. » Je lui dis « Vous trouvez du temps pour prier un peu tous les jours ?»« Et à quelle heure vous arrêtez le boulot ?»« Oh, ben, célibataire. » Vers 4 heures, je suis dans l'administration. Et qu'est-ce que vous faites? Il y a entre 4 heures et 7 heures et demie, vous avez bien le temps de consacrer du temps. Donc, je fais du jiu-jitsu, après je vais à la piscine, après... Et puis merde, quoi. Faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Alors, évidemment, la personne ne rencontre aucun combat. C'est une vague idée qui lui caresse l'âme, comme ça. Mais que la personne renonce à une activité, à la piscine ou au jiu-jitsu, et bien, voilà, quoi. Ça sera douloureux. Mais le temps qu'on lui donne, ben, il nous en dégage infiniment plus et il nous offre des choses auxquelles on n'avait jamais pensé. Il nous fait toujours déboucher sur des espaces de vie que nous n'avions pas soupçonnés. Ce qui faisait dire à un ancien aussi, et, voilà, quoi, j'étais enfoncé dans la boue et tu m'as retiré de la boue. Parce que certainement j'ai dit oui, hein, j'ai accepté. Et là, je me suis aperçu que tu étais bon et ami des hommes. Alors, si nous disons oui, il faudrait vous faire attention, puisque quand même, ce qui est très frappant dans ce pèlerinage, c'est tous les gens qui ont souffert avec des enfants qui ont disparu, qui ont été, sont morts dans des morts violentes, tous ceux qui sont malades, etc., etc. Vous ne pouvez que constater que la part de conversion, notre conversion totale, n'est pas une anesthésie face au problème, face à la souffrance. Comme dit la Vierge Marie à Bernadette, je ne vous promets pas d'être heureuse en cette vie. Mais déjà, par son attitude de donation à Dieu, elle est heureuse en Dieu, même si elle souffre de la tuberculose. Donc ce n'est pas une garantie contre les problèmes corporels ou les souffrances affectives d'être cher et qui partent dans la maladie. Voilà. Mais il y a une joie des enfants de Dieu, de quelqu'un qui a trouvé le sens même de l'existence, à savoir que nous sommes véritablement éprouvés en elle-même, que nous sommes enfants de Dieu, que ce Dieu veut nous faire participer pleinement à ce qu'il est, que nous sommes frères du Christ, enfants du Père, fils de la Vierge Marie. Tout ça, c'est une joie qui vraiment est inaltérable. Parce que c'est déjà le marchepied vers l'autre monde. Donc, l'essentiel pour la conversion, puisqu'il frappe à la porte de notre cœur, c'est de dire oui. Et d'accepter, puisque ça va durer cette métamorphose toute une vie, de dire oui à chaque fois. Et chaque jour, il faut redire ce oui, accepter ce où il veut nous amener, pour qu'il puisse réaliser cette grande œuvre d'amour à l'intérieur de nous. Et donc nous ne serons pas exempts et à l'extérieur. Souvent on entend « Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir ça ?» Mais oui, vous l'avez, votre vie ici-bas, comme disait Thérèse d'Avila, n'est qu'une nuit à passer dans une mauvaise auberge. Tout le monde rencontre plus ou moins la souffrance, mais il y a cette joie des enfants de Dieu qui, elle, est déjà stable et déjà est un début, ici-bas, dès maintenant, de l'éternité. C'est l'éternité commencée.